Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Les conditions de vie et de travail des producteurs agricoles ivoiriens, c'est le sujet que nous aborderons dans la partie reportage d'Afrique 7 jours aujourd'hui. Pour cela, nous irons à chaque ville à la rencontre de l'un de ces agriculteurs. Également au programme, la revue de la presse. Et aujourd'hui, c'est avec Constance von Kötze que nous allons parler des sujets africains évoqués dans la presse allemande. Bonjour Constance.
Bonjour Carole, bonjour à tous.
Oui, alors il est entre autres question de la tournée africaine du président français François Hollande.
Oui, exactement, de ce voyage et puis on parlera aussi des crimes rituels sur le continent et des enfants du génocide au Rwanda.
On vous retrouve donc tout à l'heure. Et on met donc le cap sur Jacqueville en Côte d'Ivoire, dans cet ancien comptoir du peuple lagunaire aladin, situé à 48 km d'Abidjan, la capitale, comme ailleurs dans le pays, il n'est pas facile pour les petits producteurs agricoles de mener leurs activités. La plupart ne disposent que de moyens rudimentaires pour cultiver leurs champs. À cela s'ajoutent les intempéries, le stress d'une mauvaise récolte et les difficultés d'écoulement de la production. Julien Adaye a suivi le quotidien de Jean Adam et les producteurs de manioc et de coco. Voici son reportage.
On est à moto là, qu'est-ce qu'on fait?
On va à la plantation.
Chaque fois que vous revenez au champ, c'est à moto?
Oui, je viens à moto. Deux fois si la moto est en panne, je prends mon vélo. Ça avec ça, je viens.
C'est ainsi que Jean Adam, grand producteur de manioc et de coco, se rend presque tous les jours dans ses différentes plantations situées à quelques 3 km de Jacqueville. Jean Adam a à son compteur 2 hectares et demi de manioc et 10 hectares de coco. Pour y travailler, il utilise des moyens rudimentaires.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement?
Bon, je suis en train de balayer la plantation avec une maquette. Avec ça, je travaille ici. La maquette ici, elle n'est pas tranchante. Je prends une lime pour aiguiser la maquette, pour pouvoir travailler. La maquette comme ça nous coûte 3 000. Nous travaillons selon nos moyens. On travaille avec la maquette, on nettoie, on fait le but avec les dabas, on plante le manioc, on n'a pas de tracteur.
Jean Adam travaille toujours presque seul dans ses vastes et étendues plantations. Pendant la période des grands travaux champêtres, il fait appel à une main-d'œuvre occasionnelle. Pour l'entretien de ses champs, Jean Adam, comme beaucoup de producteurs ivoiriens, n'a pas toujours les moyens de s'acheter les produits phytosanitaires. Là encore, il utilise une vieille méthode.
Il faut prendre quelqu'un pour faire le but. On le paye par la journée, 2500 francs pour travailler. Il faut mettre de l'engrais. On n'a pas le moyen d'envoyer les engrais. Ce débris, deux fois, on va dans les fermes là, ramasser les déchets de poulet, venir mettre au cocotier.
La période de la récolte est le moment le plus stressant pour notre producteur. Les questions sont toujours les mêmes à chaque saison. À combien sera vendue sa récolte et comment sortir sa production des champs? Les moyens utilisés ici l'appauvrissent plus.
Une fois que le manioc est arrivé, les femmes viennent payer avec le pousse-pousse. Ce que vous avez vu chez moi, là, voilà, ils viennent avec. On les vend le manioc, puis ils s'en vont. Si maintenant qu'on veut faire sortir les noix de coco, on va louer un tracteur. C'est comme ça nous travaillons. C'est dur, mais on se maintient comme ça. La difficulté que nous rencontrons, c'est le moyen de locomotive. Si on a quelqu'un qui peut nous aider, avoir un tracteur, une pompe, on serait content.
Le problème des terres en Côte d'Ivoire n'épargne aucune région du pays. Ici, à Jacqueville, les paysans n'ont plus que les bas-fonds et les marécages pour leurs différentes cultures. Les fortes pluies qui s'abattent sur le pays depuis le mois de juin ont inondé le champ de manioc de Jean Adam. C'est un producteur donc déçu, meurtri et attristé qui nous parle de sa perte.
J'ai mis quelque chose de 100 et quelques mille francs dedans. Présentement, vous voyez, le manioc est resté dans l'eau. Donc, je n'ai plus de revenus. Et voilà, moi, je suis perdant aujourd'hui. Je suis en congé, comme je vous dis. Je suis assis à la maison. C'est dans le marécage que nous travaillons. Ce n'est pas seulement que moi, toute la région, les gens qui ont le manioc, tout est dans le marécage. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de place pour cultiver.
La Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole, avec des productions très variées et leader dans bien des domaines. Mais la politique de modernisation de ce secteur reste à désirer. Pourtant, tous les dirigeants qui se sont succédés reconnaissent que le succès de ce pays repose sur l'agriculture à hauteur de 40% du PIB. Les paysans ivoiriens travaillent beaucoup pour gagner peu.
Comme le pays aussi est cher, on se débrouille comme ça. tout doucement, 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 pour pouvoir s'en sortir.
Julien Daillé, de retour de Jacquesville pour la Deutsche Welle.
Sur les ondes de la Deutsche Welle, vous êtes bien à l'écoute d'Afrique 7 jours. Place à présent à l'Afropresse, l'Afrique à travers la presse allemande. Et cette semaine, Constance, la presse revient donc tout d'abord sur la tournée africaine du président français François Hollande, tournée qu'il a amenée en Côte d'Ivoire justement, au Niger et au Tchad.
Oui, Carole, pour la Berliner Zeitung, cette tournée qui s'est achevée samedi dernier a avant tout permis au président français d'annoncer une restructuration complète de la présence militaire française sur le continent. L'opération Barkhane doit s'étendre sur 5 pays, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Et son objectif sera de lutter contre les groupes terroristes actifs dans la région. Le journal remarque au passage qu'on ne sait rien des concertations entre Paris et les gouvernements africains. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est seulement borné à déclarer que tous les pays approuvaient, voire souhaitaient cette opération.
Et le journal de gauche Neues Deutschland s'attarde, lui, en particulier sur la visite de François Hollande au Niger.
Intitulé « Hollande en mission néocoloniale », le quotidien rappelle qu'en guise de cadeau de bienvenue, on a offert au chef de l'État quelques arrestations. Des Nigériens un peu trop critiques de la politique française dans la région ont été interpellés la veille de son arrivée de manière préventive. Selon le journal, le renforcement de la présence militaire française devrait par ailleurs stimuler les djihadistes et autres groupes armés qui cherchent à légitimer leur combat par la confrontation avec l'ancienne puissance coloniale.
Autre sujet africain abordé dans la presse allemande cette semaine, les crimes rituels dont sont victimes notamment les enfants.
Oui, la Neue Zürcher Zeitung publie à ce sujet un reportage depuis Libreville, la capitale du Gabon. Un reportage qui explique tout d'abord ce qu'est un crime rituel. Dans la médecine traditionnelle africaine, les gris-gris jouent un rôle important, explique le quotidien. Ces amulettes censées porter bonheur et conjurer le mauvais sorts sont fabriqués à partir de substances végétales ou animales. Plus la requête est importante, plus les sacrifices doivent être lourds. Pour guérir un rhume tenace, par exemple, il suffira probablement de sacrifier un poulet. Lorsqu'il s'agit de la création d'une entreprise ou d'un mariage, il faudra sans doute un mouton ou peut-être même un bœuf. En revanche, lorsque quelqu'un veut devenir ministre, certains diront qu'il faut carrément sacrifier un enfant, lui retirer les organes auxquels on attribue le plus de pouvoir magique, la langue, les yeux, les parties génitales. Au Gabon, on appelle cela les pièces détachées.
Et il faut dire, Constance, que ce genre de pratique est longtemps resté tabou.
Oui, pendant longtemps, les ethnologues et les journalistes évitaient d'aborder le thème des crimes rituels. On ne voulait pas passer pour quelqu'un qui sert les préjugés coloniaux ou racistes et qui réduit les Africains à des sauvages, des cannibales ou des sorciers. Aujourd'hui, cependant, les rapports sur les crimes rituels en Afrique du Sud, au Nigeria, en RDC ou en Tanzanie se multiplient. Au Gabon, l'association de lutte contre les crimes rituels a même réussi à inscrire le sujet sur l'agenda politique et se bat pour valoriser la vie humaine.
Cette lutte contre les crimes rituels vise donc à protéger des vies, notamment celles des enfants. Et d'enfants, il en est également question dans le journal Der Freitag.
Oui, le quotidien se penche sur le sort des enfants du génocide au Rwanda. En 1994, environ 500 000 femmes ont été violées dans ce pays. Parmi elles, Lévine. La jeune femme raconte que les chefs des milices Hutu extrémistes récompensaient leurs meilleurs éléments en leur offrant des femmes Tutsis. Violée, Lévine tombe enceinte et donne naissance à une petite Josiane, qui est donc aussi la fille de celui qui a tué toute sa famille. Un exemple parmi tant d'autres, aux conséquences dramatiques, même si dans ce cas précis, Lévine et Josiane ont finalement réussi à trouver un moyen de se supporter. Si le viol est une arme de guerre connue, le Rwanda reste un cas à part, précise le journal. Le tribunal international qui a jugé les crimes commis en 1994 a d'ailleurs considéré que les violences sexuelles faisaient partie intégrante du génocide. Pour la thérapeute Marie-Josée Oukeye, interrogée par Der Freitag, le viol constitue un crime sans commune mesure. Il touche la personne dans son ensemble. Il blesse l'âme, défigure le corps et stigmatise la victime dans son essence sociale.
Dans la Süddeutsche Zeitung, il est question de centaines de milliers de personnes expulsées du Congo-Brazzaville vers la République démocratique du Congo.
Selon les chiffres officiels, ils sont plus de 170 000 à avoir été déportés par le gouvernement congolais de l'autre côté du fleuve qui sépare deux pays portant quasiment le même nom, à moins qu'ils n'aient eux-mêmes pris la fuite de peur de se faire expulser. Comme souvent, cette campagne a des motifs politiques qui reflètent l'état des relations entre Brazzaville et Kinshasa, commande la Süddeutsche. Si la RDC a pendant longtemps minimisé la gifle de son voisin, elle a fini par réagir en mai dernier en rappelant l'existence de normes internationales et régionales dans ce domaine. Cela n'a pas eu l'air d'impressionner beaucoup le président Sassou Nguesso. Kinshasa enregistre chaque jour de nouvelles arrivées, y compris de gens qui vivent depuis des années au Congo.
Et un peu de nature et d'environnement pour finir. Deux articles portés cette semaine sur la protection des éléphants et des rhinocéros.
Dans le magazine Hurtsu, il est question de la mafia des éléphants qui s'enrichit grâce à l'or blanc, autrement dit l'ivoire. À de très rares exceptions près, le commerce d'ivoire est interdit dans le monde. Mais la législation particulièrement sévère dans ce domaine a un effet pervers. Les bénéfices engrangés par les braconniers et les contrebandiers n'ont jamais été aussi élevés, selon le journal. Dans de nombreux pays d'Asie, les gens sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour des œuvres d'art ou des pochettes d'iPhone. Et puis en Europe, non plus, la protection des éléphants n'est pas forcément une priorité. Même le Vatican possède son propre atelier de sculpture d'ivoire.
Et côté chiffres, on estimait en 2012 que le nombre d'éléphants vivant sur le continent oscillait entre 420 000 et 660 000. Il y a environ 30 ans, il y en avait encore plus d'un million.
Oui, car pour obtenir l'ivoire, Carole, les braconniers tuent en masse les éléphants. Et comme ces derniers ne se reproduisent que très très lentement, ils sont menacés de disparition. Idem pour les rhinocéros qui font l'objet d'un article dans la revue scientifique Bild der Wissenschaft. L'article se penche en particulier sur le cas de l'Afrique du Sud où le trafic des cornes de rhinocéros est florissant. Dans la médecine chinoise et vietnamienne, elles sont considérées comme un moyen d'améliorer la libido, de lutter contre le cancer ou les effets indésirables d'une surconsommation d'alcool. Et là aussi, les sommes dépensées sont énormes, affirme le magazine. Des vétérinaires ont certes réussi à développer un produit pour lutter contre la contrebande, mais le procédé est encore fastidieux et onéreux. Il est pourtant urgent de trouver une solution, car tant que les cornes se vendront au prix d'un appartement, la cupidité des trafiquants ne connaîtra probablement pas de limite.
Merci pour cette revue de presse. Afrique 7 jours, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi à la présentation. C'était Constance Van Kotze et Carole Assignon. Et si vous souhaitez réécouter l'émission, une adresse dw.de/français. Très bonne suite de programme sur les ondes de la Deutsche Welle.